VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, bienvenue à l'édition du mercredi 16 septembre 2015. Ici, Chérubin Gabi Dorsil. Dans quelques instants, nous parlerons de la situation au Burkina Faso. Et à la une de l'actualité ce soir également, Burundi, arrestation de plus d'une centaine de jeunes dans le centre du pays, RDC. Sept responsables politiques ont osé prendre position contre le président Kabila. Aujourd'hui, ils sont tous exclus de la majorité présidentielle. Lutte contre Boko Haram au Cameroun, un rapport d'Amnesty International relève la cruauté de la secte nigériane, mais aussi les violations des droits humains du côté de l'armée. Crise des migrants en Europe, la France menace d'imposer des contrôles frontaliers. La situation reste confuse au Burkina Faso, où l'on se pose des questions sur le sort du président de la transition, Michel Kafando, et du premier ministre Isaac Zida et des membres du gouvernement. Le président du Parlement intérimaire, Chérif Sy, a déclaré que la nation est en danger après la séquestration, c'est son propre mot, du président Michel Kafando ainsi que du premier ministre Isaac Zida au palais présidentiel par le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, la garde de l'ex-président Blaise Compaoré. Le devoir nous appelle car la nation burkinabé est en danger. Nous en appelons au devoir de solidarité des forces vives, des forces politiques, de la société civile et de la communauté internationale avec tout le peuple burkinabé pour faire échec à cette opération, a-t-il déclaré dans un communiqué. Et il faut dire aussi que notre correspondant sur place, Zoumana Wonogo, a suivi la situation depuis 14 heures heure locale et il a parlé il y a peu à Morgane Guiriec.
Le président du CNT, à valeur d'Assemblée nationale, confirme l'arrestation du président du Faso, du premier ministre, du ministre de la fonction publique et de celui de l'urbanisme. On ne sait pas quel est leur sort examen. En tout cas, ils sont arrêtés après l'irruption des éléments du régiment de sécurité présidentielle. Il parle d'irruption, de prise d'otages.
Et est-ce qu'on sait où se trouvent le président et le premier ministre?
Ce qui est sûr, ils sont au niveau du régiment de sécurité présidentielle, au palais de la Tripissée. Comme c'est le RSP qui garde le palais présidentiel, le conseil des ministres se tient là-bas. Donc c'est là-bas qu'ils sont. Ça, au moins, on peut les confirmer. Ils sont au niveau du camp de la sécurité présidentielle à Koutiam, au palais présidentiel là-bas.
Alors, revenons sur les déclarations du président du Conseil national de transition. Est-ce que vous pourriez nous résumer ce qui a été dit?
Oui, la première phrase est claire. Elle dit clairement la nation est en danger et le devoir nous appelle. En résumé, c'est la quintessence de ce que le président dit. Et pourquoi la nation est en danger? Parce que le président du Faso, le premier ministre et deux autres ministres ont été enlevés, ont été pris en otage par des éléments du régiment de sécurité présidentielle. Mais c'est vrai que la déclaration n'explique pas non plus pourquoi ils les ont enlevés. Il n'y a pas les explications, il n'y a pas les raisons. Mais le président ajoute, appelle les fils et les filles de ce pays-là à se mobiliser pour libérer la patrie qui est en danger. Donc on se retrouve dans une situation de tension extrême pratiquement. Et les jeunes actuellement, c'est fou. C'est comme si on revenait au 30 octobre passé. Les jeunes sont en train de se mobiliser pour aller libérer les otages, comme ils disent. Je viens de les quitter à la place de la Révolution où il y a eu un grand rassemblement et sur les motos, qui à pied, qui à vélo, avec des sifflets, ils clairont qu'ils partent maintenant direction le palais présidentiel. Donc sur cette route-là, je suis en train d'attendre avec une distance raisonnable derrière eux pour aller vers le palais présidentiel, libérer les otages, comme ils disent.
Voilà, merci Zoumana Wonogo, notre correspondant sur place à Ouagadougou.
Et notre collègue Bagassi Koura est en contact avec plusieurs sources à Ouaga. Alors Bagassi, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau ?
Ce qu'il faut dire, c'est que, comme le disait Zoum, il y a une forte mobilisation sur le terrain en ce moment des députés du CNT. Et même les populations sont en train de se diriger sur le palais de Kossiam pour tenter de résister donc cette tentative de séquestration du président de la transition et du premier ministre et aussi de certains autres ministres. Ce qu'il faut dire, c'est que le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, mis en place par Blaise Compaoré en 1995, est donc au cœur de cette affaire parce que l'un des membres du RSP, l'ancien numéro 2 donc, de ce régiment, est le premier ministre actuel. Et depuis donc la chute de Blaise Compaoré, ce n'est pas un parfait amour, hein, c'est peut-être un euphémisme pour le dire, entre Zida et ses anciens camarades du RSP qui lui reprochent de vouloir démanteler le régiment parce que Zida l'avait dit déjà en décembre dernier qu'il fallait démanteler le RSP. Et ensuite, en février, il y a une crise entre le RSP et Zida lui-même, le RSP demandant la démission de Zida du gouvernement, une crise qui s'est répétée il y a quelques mois encore, où le RSP avait demandé carrément la démission de tous les membres du gouvernement. Ils étaient 4, je crois, à l'époque. Et ce qui, après plusieurs consultations, ce qui n'a pas eu lieu, puisque le président Michel Kafando a seulement décidé de retirer le ministre Denis Auguste Barry, qui est un colonel, qui lui était le cerveau, dit-il, des militaires dans le gouvernement. Et donc, cette énième crise, on ne sait pas encore les raisons, mais les militaires... certains que nous avons pu avoir ce matin au téléphone disaient que, finalement, il était temps qu'on remette une nouvelle transition. Il parlait d'inclusion, c'est-à-dire il faisait allusion aux membres du parti de Compaoré qui ont été exclus des élections. Et donc, il fallait organiser une nouvelle transition et les inclure aux élections. Vous savez, ils sont exclus des présidentielles et certains aussi des législatives. Et pour l'instant, rien de tout ça n'est officiel. Et un autre officier du RSP qui disait qu'une réunion était prévue ce soir à Ouagadougou avec les autres membres de l'armée burkinabé à l'état-major pour essayer de désigner peut-être des leaders de la nouvelle transition. Mais tout ça risque d'être remis en cause parce que les choses vont très, très, très vite et la mobilisation en ce moment est très forte à Ouagadougou. Ce n'est pas sûr que le militaire puisse tenir et résister à la mobilisation de la population.
Alors, Bagassi Koura, pour être précis, ce n'est pas le parti de Blaise Compaoré, le CDP, qui a été exclu, ce sont des individus.
Oui, ce sont des individus dont leur candidat à la présidentielle, donc c'est une façon, le candidat à la présidentielle du parti de Blaise Compaoré ne peut pas se présenter aux élections d'octobre 2015. Donc, voilà, et il y a certains autres individus. Djibril Bassolé, qui était le ministre des Affaires étrangères, qui a créé son parti, la NAFA, donc a été exclu aussi. Il y a aussi Yacouba Ouédraogo, qui était ministre de Blaise Compaoré. Il a été exclu aussi de la présidentielle. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui étaient proches de Compaoré qui ne pourront pas se présenter à ces élections législatives et aussi présidentielles.
Merci, Bagassi Koura. On parle maintenant du Burundi, Morgane.
Oui, plus de 100 jeunes ont été arrêtés hier et aujourd'hui à Gitega, dans le centre du pays. Les autorités invoquent la sécurité nationale. Claire Morin-Gibourg.
Les arrestations ont été confirmées par le gouverneur de la province, venant Mani Rambona. La centaine de jeunes véhiculés en minibus a déclaré se rendre dans le sud pour chercher du travail. Information que les autorités voulaient vérifier. Elles craignent que ces jeunes gens rejoignent des mouvements rebelles en lutte contre le gouvernement actuel. Selon le correspondant de VOA Afrique, les jeunes arrêtés et emprisonnés viennent majoritairement de la province de Karoussi. Les enquêtes sont en cours selon le gouverneur. Selon l'agence AP, Aucun groupe rebelle n'a été identifié, mais les forces de sécurité ont récemment fait état d'attaques rebelles sur des postes militaires. Depuis quelques mois, la violence est de retour au Burundi, et plus particulièrement dans la capitale Bujumbura, avec de multiples attaques armées à l'aide de fusils, de grenades et de roquettes.
En République démocratique du Congo, sept cadres de la majorité présidentielle qui avaient écrit le 14 septembre dernier au président Joseph Kabila pour lui demander notamment de garantir le respect absolu de la Constitution ont été exclus de la famille présidentielle, Gabi.
Il s'agit de Olivier Kamitato, actuel ministre du Plan, Charles Mwandon Simba, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Yves Mobando, José Ndundo, Danny Bonza Maloba, Antoine Gabriel Kyungu et Christophe Lutundula, tous présidents des partis politiques membres de la majorité au pouvoir. La décision de leur mise à l'écart a été annoncée à Kinshasa aujourd'hui. Lambert Mende Omalanga est le porte-parole du gouvernement de la RDC.
Les auteurs du mémorandum ont pris fait et cause pour l'opposition. Nul n'ignore en effet que l'agenda électoral chahuté n'est pas l'œuvre de la majorité, comme ils le prétendent. En lieu et place de solutions alternatives, crédibles, ils préfèrent s'adonner à l'instrumentalisation des peurs irrationnelles pour un objectif de positionnement politique. Alors que le respect de la Constitution a toujours été une constante dans les déclarations et les actes du président de la République, le mémorandum fait croire le contraire, exposant gratuitement notre autorité morale à la vindicte publique. Les félicitations adressées par l'opposition aux signataires du mémorandum en font foi. Les auteurs du mémorandum affaiblissent les institutions de la République. Il apparaît clairement que les auteurs du mémorandum se sont auto-exclus de la majorité présidentielle. Il ne reste plus aux signataires de ce mémorandum qu'à tirer à tous les niveaux les conséquences du choix stratégique qu'ils ont ainsi opéré en faisant simplement le constat qu'ils ont choisi de la quitter pour rejoindre les rangs d'autres forces politiques.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
Le Nigeria envisage d'offrir l'amnistie à des islamistes de Boko Haram emprisonnés en échange de la libération des lycéennes enlevées à Chibok. Anastasie Toudjiech.
Au dernier jour de sa visite en France, le président Muhammadu Buhari a dit que si les responsables de Boko Haram acceptent de rendre les filles de Chibok, ils pourraient accorder l'amnistie à leurs prisonniers. Cependant, très prudent, il a précisé qu'il faudrait d'abord être sûr qu'elles sont en bonne santé et savoir le nombre exact de filles qui peuvent être récupérées avant d'envisager toute libération de prisonniers. Le 14 avril 2014, Boko Haram avait enlevé 276 adolescentes au lycée de Chibok dans l'état de Borno. Le sort de la plupart d'entre elles est resté incertain. Après ce kidnapping qui avait soulevé un tollé mondial, Aboubakar Shekau, le leader de Boko Haram, avait annoncé dans une vidéo que les filles ont été converties à l'islam et mariées à des combattants. Des défenseurs des droits de l'homme affirment qu'elles sont parfois vendues en esclavage à des militants, voire utilisées dans des attentats suicides.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Passons tout de suite, Morgane, à notre page sport avec en studio Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir, chérubin.
Première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions.
Oui, ce mercredi, le choc entre l'AS Rome et le FC Barcelone tenant du titre, c'est l'affiche des matchs de cette première journée. Chelsea en pleine crise à l'occasion de se rassurer en recevant le Maccabi Tel Aviv. À suivre ce soir, Leverkusen contre le Bate Borisov, Dynamo Zagreb contre Arsenal, Olympiakos, Bayern de Munich et puis le Dynamo de Kiev contre le FC Porto. La Gantoise contre Lyon et le Valence contre le Zénith Saint-Pétersbourg.
Moi, j'aime bien les chances du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, l'équipe a bien commencé, ainsi que le Real Madrid.
Oui, le PSG et l'Argentin Angel Di Maria, sa nouvelle recrue buteur, ils se sont imposés 2-0 au Parc des Princes devant Malmö. Carton du Real de Madrid qui domine le Shakhtar Donetsk 4-0 avec un triplé de Cristiano Ronaldo. Dans le groupe B, Wolfsburg qui a battu le CSKA Moscou 1-0. La défaite, surprise de Manchester United en déplacement sur le terrain du PSV Eindhoven 2-1. Dans le groupe C, c'était chaud à Istanbul entre Galatasaray et l'Atlético Madrid, mais finalement ce sont les Espagnols qui l'ont emporté 2-0. Un dernier résultat, Manchester City dominé à domicile par la Juventus de Turin 2-1.
Et si on avait le temps, Nicolas, on pourrait aussi parler du choc de Benfica et Astana. Ce n'est pas un choc.
Choc, c'est le petit poussé kazakh qui a été battu 2-0 au Portugal par le Benfica.
Alors voilà, merci Nicolas Pino pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriec et Chérubin Dorcil, votre compagnie, place au dossier du jour. Dans quelques instants, on reviendra sur la situation au Burkina Faso, où le président de la transition, Michel Kafando, le premier ministre Isaac Zida et d'autres personnalités du gouvernement ont semble-t-il été séquestrés par le régiment de sécurité présidentielle. Mais juste avant, allons à Bujumbura.
Oui, au Burundi, la principale coalition de l'opposition appelle la communauté internationale à agir vite pour épargner à ce pays un scénario de débordement violent. Maître François Nyamuya, vice-président du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et la restauration de l'état de droit, joint à Bruxelles, propose des sanctions ciblées contre le président Pierre Nkurunziza et son entourage. Et
la communauté internationale se rend compte de ce qui se passe réellement au Burundi sur le terrain. Elle en est témoin. Donc, je suis presque certain que la communauté internationale va suivre son propre raisonnement, sa propre logique, qui est celle de condamner des violations aussi flagrantes que celles qui se passent au Burundi.
Quelles sont les sanctions spécifiques qui pourraient faire fléchir finalement le président Nkurunziza?
Un certain nombre de pays ont déjà pris des sanctions qui sont assez concrètes, des restrictions qui concernent la coopération. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, ce sont des sanctions ciblées qui touchent des personnes, qui touchent des individus, notamment le personnel qui est au service du président, toutes ces personnalités et tous ces responsables qui sont responsables des exactions qui se commettent. Et nous espérons que ces sanctions ciblées peuvent être assez dissuasives.
Il y a eu plusieurs actions de prévention, mais le président Nkurunziza a continué sur sa logique.
C'est une question de temps. En fait, le président Nkurunziza s'imagine qu'en fonçant et en se moquant de la communauté internationale, il peut parvenir à ses fins. Comme c'est quelqu'un qui ne suit pas les règles, ni de son propre pays, ni de la communauté internationale, il s'imagine que tout ce qu'il fait peut passer. Mais ça ne va pas passer, ça ne prend que plus de temps, mais il ne pourra pas se moquer davantage. Donc, si la communauté internationale maintient sa pression, cela va avoir de l'effet sur le président Nkurunziza.
Le chargé de la communication du SINARED n'a pas exclu le recours à la force militaire pour déloger le régime Nkurunziza si celui-ci refuse de partir. Pensez-vous que c'est l'ultime solution pour renouer avec le respect de la Constitution et de l'accord d'Arusha?
Ce n'est pas notre option. Notre option est une option non-violente. C'est une option qui s'inscrit dans la légalité internationale. C'est pour ça que nous demandons et que nous continuons à faire pression. Ce dont nous sommes convaincus, c'est que si la communauté internationale ne s'investit pas dès maintenant pour contraindre Nkurunziza à retrouver le chemin du respect de l'accord d'Arusha, cela n'exclut pas que des débordements violents puissent avoir lieu parce que les gens sont désespérés et qu'ils n'ont pas d'autre choix, surtout qu'il est question d'une survie. Les gens sont exécutés de manière continue. Dans ces conditions, vous comprenez que les gens peuvent être tentés par la violence.
Maître François Nyamuya, joint à Bruxelles par Eric Manirakiza.
Massacre, enlèvement, pillage, le rapport d'Amnesty International sur la lutte contre Boko Haram au Cameroun est clair, le bilan sanglant, ce sont les crimes de guerre qui ont cours en ce moment dans le nord du Cameroun, mais le rapport souligne aussi la responsabilité des autorités camerounaises dont la campagne de lutte antiterroriste se fait parfois en violation des droits humains et entraîne de lourdes pertes parmi les civils. Anastasie Tudiesch a demandé les précisions à Steve Cockburn d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest et centrale.
Nous avons, depuis quelques années, nous travaillons sur la question de Boko Haram au Nigeria, où il y a eu des milliers de morts. Mais ce que nous avons vu cette dernière année, qu'il y a eu, que Boko Haram a exporté sa violence auprès des voisins du Nigeria, surtout au Cameroun, et ils ont commis des graves crimes de guerre contre la population civile dans cette partie du pays. Et donc, nous avons décidé de faire une recherche dans cette région pour voir un peu la situation des droits humains dans cette région et voir les attaques menées par Boko Haram, mais aussi la réponse des forces de sécurité.
Où opère Boko Haram au Cameroun et de quelle manière? Vous pouvez nous dire ça en quelques mots?
C'est clair que Boko Haram, ils ont commis les crimes de guerre dans le nord du Cameroun. Nous avons documenté plus de 380 civils qui sont morts dans les attaques de Boko Haram. Donc, peut-être entre octobre 2014 et mars 2015.
Dans quelle région?
Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, surtout dans les villes et les villages à la frontière avec le Nigeria. Donc, ce que se passe, c'est dans cette période-là, le Boko Haram a attaqué les villages à la frontière. Ils ont attaqué les civils, ils ont brûlé les maisons, ils ont abattu des centaines de personnes. Et plus récemment, nous avons vu un changement de tactique depuis juillet, où ils ont lancé une série d'attentats sur le site dans les villes du Nord, même en utilisant les filles de 13 ans pour lancer ces attaques.
Dans le rapport d'Amnesty, les civils sont donc victimes des exactions de Boko Haram, mais aussi des autorités camerounaises, dans la lutte contre Boko Haram.
Tout à fait, donc. En réponse aux attaques, le Cameroun a déployé des milliers de forces de sécurité pour essayer de protéger la population. Mais en le faisant, ils ont aussi commis les graves violations des droits humains aussi qui n'ont pas été reconnues par le gouvernement ou encore moins fait l'objet de séries d'investigations. Les forces d'ordre ont détenu plus de 1000 personnes dans cette région, très souvent sans preuve ou sans inculpation. Et très souvent dans les opérations de ratissage où ils arrêtent des dizaines et parfois voire des centaines de personnes en même temps. Et ces personnes, après leur arrestation, sont détenues dans des conditions déplorables.
Steve Cockburn d'Amnesty International Afrique de l'Ouest et Centrale. Il faut dire aussi que des membres du réseau Dynamique Citoyenne et un journaliste ont été arrêtés mardi à Yaoundé, la capitale du Cameroun. C'est ce que signale l'ONG CCFD Terre Solidaire. Ils ont été interpellés lors d'une conférence réunissant des organisations de la société civile pour le lancement de Tournons la page Cameroun, un mouvement international pro-démocratie dont le CCFD Terre Solidaire est membre et selon une responsable de l'ONG, ils n'ont toujours pas été relâchés. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Tatiana Mosso avec vous depuis la capitale américaine dans Washington Forum ce jeudi 17 septembre. Un focus sur les violations des droits de l'homme qui seraient commises par l'armée camerounaise dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Amnesty International dénonce les abus des soldats camerounais. Comment combattre un ennemi quasi invisible et qui s'infiltre au sein des populations de réfugiés? Partagez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU avec nos invités.
Situation confuse au Burkina Faso où l'on se pose des questions sur le sort du président de la transition, Michel Kafando, et le premier ministre Isaac Zida, qui auraient été arrêtés par des éléments de la sécurité durant le Conseil des ministres de ce mercredi. On écoute Alexandre Sankara au micro d'Idesphal. Il est député du parti sankariste.
C'est regrettable tout ce qui se passe. Nous condamnons ça avec la dernière énergie. Et de toute façon, cette quatrième forfaiture du RSP ne passera pas parce que nous avons déjà appelé le peuple à se mobiliser pour barrer la route au coup de fil. Parce qu'il faut le dire clairement, une tentative de coup d'État, de confiscation du pouvoir, et ça ne passera pas aux yeux du peuple burkinabé, aux yeux des députés du Conseil national de la transition.
Et pourquoi parlez-vous de tentative de coup d'État?
Si la garde présidentielle censée protéger le président et les institutions, si ce sont ces éléments de cette garde-là qui prennent en otage le président et le premier ministre et quelques membres du gouvernement, si ce n'est pas un coup d'État, c'est quoi?
Mais quand même, ils n'ont pas pris la radio nationale, ils n'ont pas fermé l'aéroport pour le moment.
Oui, bien sûr, ils n'ont pas fermé l'aéroport, ils n'ont pas encore pris la radio, mais dans tous les cas, on attend de voir qu'est-ce qu'ils vont dire dans leur déclaration. Et tout le peuple burkinabé attend, mais d'ores et déjà, les gens sont mobilisés à la place de la révolution, comme d'habitude. Et on nous dit déjà qu'il y a des convois vers Kossiam, ce qui est sûr, le peuple est mobilisé, restera mobilisé. Et le peuple ne tolérera pas que le régime de sécurité présidentielle perturbe ou veuille remettre en cause les acquis de la transition et surtout veuille remettre en cause les élections présidentielles et législatives qui sont programmées pour se tenir le 11 octobre 2015.
Mais comment expliquez-vous cette sorte d'humeur donc de la garde républicaine?
Non, c'est prévisible, ce n'est pas la première fois, ça fait la quatrième fois depuis le début de la transition. Cette garde présidentielle n'a pas encore digéré ce qui s'est passé le 30 et 31 octobre. Ils ne veulent pas que des tentatives pour ramener l'ordre ancien, nous, de toute façon, au sein de mon parti, nous avions, dès le début de la transition, dit que pour que la transition aille jusqu'au bout, il fallait démanteler ce régime de sécurité présidentielle. Bon, on a tergiversé, et voilà aujourd'hui, ils interviennent quand ils veulent, ils mettent un coup d'arrêt quand ils veulent, et on ne sait pas finalement jusqu'où et jusqu'à quand tout cela va durer.
Et pourtant, c'est l'ancien numéro 2 de cette même garde qui est devenu premier ministre du gouvernement de transition, non?
Oui, c'est le numéro 2. C'est tout cela qui complique les analyses politiques dans notre pays. Il y a tout est confus, on ne sait pas finalement qui est avec qui est pour qui est contre quoi, qui fait quoi et pourquoi tout est confus. On nous aurait dit qu'il s'est affranchi de ses anciens amis de l'unité présidentielle. Bon, les faits, en tout cas, semble démontrer cela parce que ça fait la deuxième fois qu'il a été pris par ses anciens compagnons. Bon, dans tous les cas, nous attendons de voir l'issue de cette tentative.
Voilà, c'était Alexandre Sankara, député du parti sankariste.
Et VOA Afrique a joint également Guy Hervé Kam. Il est membre du groupe Ballet Citoyen au Burkina Faso.
Ben, nous pensons que c'est une énième tentative du régime de sécurité présidentielle qui a toujours été la garde prétorienne et la milice de Blaise Compaoré de prendre en otage la marche du peuple burkinabé vers sa libération totale, vers une bonne démocratie. Et une nouvelle fois, le peuple est encore obligé de se lever comme un seul homme pour faire barrage à cette énième tentative-là. Pour la question définitivement, je pense.
Mais comment est-ce que vous allez faire?
Ben, le peuple est déterminé. Si on veut diriger le Burkina, le Burkina, c'est d'abord les Burkinabés. Et dès que l'information est tombée, la population est sortie, les gens sont mobilisés. Nous sommes en train d'aller vers la présidence et il faudrait bien que ces éléments-là libèrent notre présidence.
Et s'il ne le libère pas, qu'est-ce qui va se passer?
Ben, s'ils ne libèrent pas, ils devront en finir avec tout le monde.
Est-ce que maintenant on a les derniers développements, tout ce qui est advenu du
pays? Non, les derniers développements, c'est que la hiérarchie militaire est quand même en train de négocier. Et nous pensons ça va se décanter. Parce que de toute façon, aucune unité militaire ne peut jamais rien contre un peuple déterminé.
Guy Hervé Kam du groupe Ballet Citoyen, joint à Ouagadougou.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et pour tout ce qui se passe au Burkina et d'autres points de l'actualité, suivez-nous sur Facebook et sur voaafrique.com. Merci Georges Léonard Sagnot à la production et Alfredo Santos à la console. Morgane Guériac et Chérubin Dorsil au micro.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.